Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, c'est la première prédication de l'année, et bien sûr, nous souhaitons à chacun et à chacune d'entre nous la meilleure année possible avec le Seigneur. Mais il faut quand même rappeler que les premiers chrétiens avaient retenu la date du 25 mars pour célébrer la nouvelle année. L'Angleterre a continué à le faire jusqu'en 1753. Elle reconnut ensuite le calendrier grégorien et fixa le 1er janvier. Les Juifs commencent leur année religieuse à l'équinoxe du printemps et leur année civile en octobre. Peu importe, en fait, la date réelle du début d'un an nouveau. Cela nous met d'ailleurs à l'aise pour adresser à vous tous, chers amis, nos remerciements pour vos vœux fraternels affectueux. Une année, ça représente le temps que met la Terre pour terminer sa révolution autour du Soleil. Pour être exact, il faudrait donc connaître le moment précis où elle a commencé sa course autour du Soleil. Mais qui pourrait le dire? Au fait, cela même nous importe-t-il beaucoup? Bien plus que le commencement d'une année, n'est-ce pas plutôt celui d'une vie nouvelle qui est l'essentiel? Qui d'entre vous n'a pas éprouvé le lancinant désir de passer l'éponge sur l'ardoise de sa vie et de la recommencer à zéro? Face aux idéaux élevés qui surgissent dans son cœur, l'homme ne trouve que sa propre incapacité de les poursuivre et de les atteindre. Déçue, la jeunesse regarde autour d'elle pour chercher quelqu'un qui aurait atteint le but. Déçue, bien plus encore, la vieillesse s'en va courbée, tâtonnante, à la recherche de ce qu'elle n'a pas su trouver pendant toute son existence. C'est alors que l'annonce d'une nouvelle année, peu importe la date, apporte un dérivatif illusoire auquel on s'accroche volontiers pendant quelques jours jusqu'à ce que la vie reprenne son écrasante routine. Comment briser ce cercle magique qui nous étreint et se resserre à mesure que passent les années? Y a-t-il un moyen? La Bible nous dit oui. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dit l'Écriture. Mon péché, écrivait Luther dans son désespoir. Et voici que tout à coup, en lisant dans la tour du monastère de Wittenberg le verset « Le juste vivra par la foi », la lumière jaillit dans son âme. Quand, par l'Esprit de Dieu, je compris ces paroles, écrit-il, je me sentis né de nouveau, un homme nouveau. J'entrais par la porte ouverte dans le paradis même de Dieu. Ce sentiment de renaissance est merveilleux. Il fait de la Bible un livre nouveau. Tout est transformé. Les amis, les ennemis, l'humanité entière, l'amour pour les choses spirituelles, pour l'Église, pour Dieu lui-même. Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré dans sa parole que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché? Pourquoi ne pas lui demander d'opérer ce début nouveau, ce recommencement qui transformera notre vie, qui lui redonnera son sens réel, qui fera naître en nous la joie et la reconnaissance au lieu de la déception? Nous n'aurons plus besoin alors de compter sur la révolution du temps et des années. Nous sentirons palpiter en nous cet éternel renouveau qui a sa source dans le pardon de Jésus et la paix avec Dieu. Amen. Voici une anecdote à laquelle on peut donner le titre « Les sources de la mort ». Donc c'est la description qui a été faite par un journaliste du voyage harassant des 15 survivants de l'expédition nord-américaine McDonald au travers de la jungle, au cœur même de la contrée que traverse le fleuve Amazon. Voici ce récit. Haletant, les hommes poursuivent leur route jusqu'à la première base, qui ne doit pas être très éloignée, à l'orée de la forêt vierge. Ils ont de quoi manger, mais une soif atroce les tenaille depuis plusieurs heures et commence à menacer de folie leur esprit halluciné par la chaleur, les bruits et les silences même de la jungle. Soudain, ils perçoivent un son, une musique de plus en plus réelle et douce à mesure qu'ils avancent. N'est-ce pas en effet le bruit de l'eau qui coule? Et ils sont sauvés. Le fleuve s'étale à leurs pieds. Ils courent jusqu'à la rive et s'abreuvent longuement à ce courant limpide et frais. Si limpide qu'il laisse voir avec une extraordinaire netteté les pierres et le sable qui recouvrent son lit. La marche reprend, légère et facile. Il est vrai que ce breuvage laisse un goût bizarre dans la bouche, un peu comme celui du lait froid et sucré, mais personne n'y prend garde. Le soir, tandis que les 15 hommes s'arrêtent pour manger, chose étrange, aucun d'eux n'a faim et leur sommeil est lourd. Au matin, encore quelques gorgées de l'eau restauratrice et l'on se remet en route. Mais au bout de quelques heures, de vives douleurs saisissent l'un après l'autre tous les explorateurs. Et c'est à grand-peine qu'ils se traînent jusqu'à la station qui est en vue maintenant. Un lavage d'estomac et quelques compresses soulagent momentanément leur souffrance. Transportés en avion à Bogota, ils devront faire un long séjour à l'hôpital et ne pourront plus désormais se joindre à aucune expédition. Ils ne pourront même plus entreprendre aucun effort physique. Et ce n'est qu'en observant un régime très sévère qu'ils prolongeront leur jour. L'eau du fleuve auquel ils ont bu les a sauvés et condamnés en même temps. S'ils n'avaient pas été tenaillés par les brûlures de la soif, ils auraient remarqué que les morceaux de branches et les feuilles sur la rive étaient recouverts d'une patine jaune et ténue, révélatrice de la présence de sables aurifères dans les eaux. Ils auraient vu aussi des restes d'insectes et des squelettes de petits animaux de la forêt couverts de cette même patine et bizarrement tordus et contorsionnés. Les indigènes n'approcheraient jamais leurs lèvres d'un tel breuvage. Ils se servent des eaux du Cachoun, tel le long du fleuve, pour tanner les peaux des animaux et pour imperméabiliser les fibres végétales dont ils recouvrent le toit de leur cabane. Ils savent bien que s'ils se baignaient dans le fleuve mortel, leur corps serait aussitôt recouvert de cette patine fine et imperméable qui boucherait leurs pores et provoquerait ainsi une mort atroce par asphyxie. Le Cachoun n'est d'ailleurs pas le seul fleuve dont les eaux contiennent, fortement concentrées, des substances solubles qui proviennent des roches d'où il jaillit. Cette région désertique est remplie de lacs et de cours d'eau contaminés et empoisonnés par des végétaux ou des minéraux. L'un d'eux, appelé par les indigènes le cercueil de cristal, a la sinistre propriété de paralyser l'infortuné qui en a bu quelques gorgées. Il devient aussitôt rigide, ne perd pas connaissance, voit et entend ce qui se passe autour de lui, mais ne peut plus faire un mouvement. Il ne peut ni se lever ni crier. Il est en proie à la terreur folle que doivent éprouver ceux qui sont ensevelis vivants. Ils doivent supporter cette torture qui ne les conduira pas nécessairement à une mort rapide. Je ne peux m'empêcher de penser à cette autre immense jungle qu'est le monde et à ces explorateurs qui, comme leur nom l'indique, cherchent à en découvrir toutes les sources et à boire à tous ces fleuves aux rives attrayantes. D'ailleurs, n'est-il pas légitime de vouloir étancher sa soif ? Soif de connaître ? Soif d'apprendre, soif de jouir aussi et de goûter à ces eaux fraîches dont l'arrière-goût est quelque peu déconcertant, il est vrai, et laisse un relent suspect comme les eaux du Cachoun. Mais qu'importe, on a soif, il faut boire. D'ailleurs, pourquoi négliger ce qui fait le charme de la vie, dit la jeunesse ? On a soif, il faut boire. Pourquoi ne pas se laisser entraîner dans les eaux tranquilles et sûres de la richesse où miroitent quelques paillettes d'or, dit l'adulte ? La vie est vite passée. On a soif, il faut boire. Pourquoi ne pas se plonger dans les eaux profondes et mystérieuses de la science et ne pas déguster en connaisseur les nombreux éléments ? N'est-il pas légitime d'apprendre, de connaître, puis de découvrir ? On a soif, il faut boire. Rien de plus noble et de plus légitime, certes, mais où s'arrêtera-t-on ? Le rythme devient toujours plus accéléré et l'on continue à boire à toutes ses sources. On s'immerge dans tous ces fleuves, jusqu'au jour où l'on sera englouti dans le dernier, celui de la mort. Et pourtant, un maître s'est levé autrefois, et il me semble l'entendre s'écrier le jour d'une fête solennelle, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive !» Dans d'autres occasions, il répète encore, « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jésus étancherait-il définitivement cette soif inassouvie et peut-être inavoué, de l'âme à la recherche de bonheur et de certitude ? Oui, et il l'affirme en précédant ses paroles d'une répétition à l'adresse de ceux qui en douteraient. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et l'homme qui la possède est à jamais désaltéré, car il connaît celui qui donne la seule eau qui désaltère. Mais j'entends aussi les paroles qui résonnent comme un glas funèbre et meurent tristement sur les lèvres divines. Et vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas seulement à la ville de Jérusalem que pense le maître, mais à tous ceux qui se détournent de lui et méprisent son offre salvatrice, préférant boire aux eaux qui ne désaltèrent pas, aux eaux souvent mortelles les fleuves de ce monde, et vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi personne ne se tient-il sur la rive pour avertir les explorateurs du danger mortel qui glisse avec le courant? Pourquoi? Je me pose la question, et je vous la pose aussi en ce début d'année. Voilà, bien-aimés, bien nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité. Quel grand privilège que de pouvoir connaître l'Évangile, de pouvoir l'annoncer, de pouvoir en être des témoins auprès de ceux qui nous entourent. Quel grand privilège de pouvoir être sauvé puissamment en recevant cet Évangile avec un cœur bien disposé. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis encore dans ces moments qui viennent, par ta parole, par ton esprit. Tu veux encore te glorifier, tu veux encore sauver, tu veux encore visiter l'un, visiter l'autre, suivant ce qui est salutaire, bénéfique et nécessaire. Nous te remercions, notre Sauveur Tout-Puissant. Amen. Voilà, bien, je vous invite, en effet, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er et au verset 20. Proverbes, chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Voici un passage qui nous parle effectivement du message le plus important de l'existence et des enjeux considérables qui résultent du fait qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas ce message. Et bien sûr, en ce début d'année, il est important de rappeler cela en tout premier. Eh bien, nous avons là une méditation en 7 points. Déjà, l'auteur... Et l'enjeu principal, dans le début du verset 20, c'est la sagesse. Ensuite, en deuxième, l'attitude de vraie sagesse, dans les versets 20 et 21. Et puis nous avons aussi un message de répréhension de la part de la sagesse, du verset 22 au verset 23. Mais aussi, en quatrième, les promesses de la sagesse, dans ce même verset 23. Il nous est parlé aussi du rejet de la sagesse, les versets 24 et 25, ainsi que les versets 29 et 30. Et en sixième, les conséquences du rejet de cette sagesse, c'est du verset 26 à 28 et du verset 31 à 32. Et enfin, Dieu merci, pour conclure en septième, les conséquences de l'acceptation de la sagesse, au verset 33. Alors considérons notre premier point, l'auteur. L'enjeu principal de notre texte, de notre vie, c'est la sagesse. Début du verset 20. La sagesse crie dans les rues, etc. Donc, qu'est-ce que cette sagesse dont il est question là? Alors, d'une part, c'est une méthode de vie, de comportement, qui va attirer sur nous la bénédiction et les bienfaits de Dieu, l'accomplissement des promesses de la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est aussi une personne, parce que Jésus-Christ, c'est la sagesse personnifiée. Et il faut que Jésus, en quelque sorte, s'imprègne littéralement dans notre vie. C'est aussi, il y a aussi une grande manifestation de sagesse dont il est question là, s'engager au service de Dieu pour gagner les âmes, sans tarder, surtout ceux qui sont dans leur jeunesse, Le livre des Proverbes nous dit par ailleurs que celui qui gagne des âmes est sage. C'est un homme de Dieu qui dit « Agissez pendant que vous êtes jeune. Il n'y a qu'un printemps dans la vie. Et c'est le printemps qui prépare la richesse de l'été et la fécondité de l'automne. » Vinet disait aussi « Nous qui ne durons pas, faisons des œuvres qui durent. » Goethe, le grand poète allemand, disait « Une vie oisive est une mort anticipée. » Et un autre homme de Dieu, américain, Drummond disait « Nous sommes en ce monde non seulement pour nous préparer à en sortir, mais pour travailler activement au service de notre Dieu ici-bas même. » Il est important que nous ayons précisément toutes les réalités de cette sagesse d'en haut bien présente et bien active dans notre vie. Et puis ceci nous amène à l'attitude de la vraie sagesse, verset 20 et verset 21. Nous voyons qu'elle crie. Elle crie, pourquoi ? Bien, elle crie parce qu'elle a une profonde conviction. Lorsqu'on crie quelque chose comme cela, c'est qu'on est convaincu de sa force, de son urgence, de sa réalité. Et cette conviction, elle vient de la foi en la parole de Dieu, de l'importance des ordres de cette parole, de la nécessité de sa mise en œuvre. Combien c'est important pour la sagesse. Nous voyons de plus qu'elle a un message, cette sagesse. Pour le répéter avec tant de conviction, c'est qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose qui peut toucher les nombreux auditeurs qu'elle veut atteindre dans la cité. Nous voyons aussi qu'elle est persévérante. Elle va systématiquement dans tous les lieux. Il nous est parlé de rues, de places, de lieux bruyants, de portes. Elle commence par les plus insignifiants, les ruelles, pour arriver aux plus importantes, les portes, parce que c'était les portes de la ville où se prenaient les décisions. C'était en quelque sorte le conseil municipal à l'époque. Et puis nous voyons aussi que cette sagesse considère que c'est urgent. Sinon, elle ne crierait pas ainsi. Elle se met sous tension pour annoncer ce message et elle prouve ainsi la réalité de sa sagesse. On raconte qu'un artiste peintre fut chargé de représenter en un grand tableau une église tombant en ruine. À l'étonnement d'un grand nombre de ses amis, il peignit un édifice majestueux d'architecture moderne. À travers les portiques ouverts, on apercevait la chaire richement sculptée, les orgues superbes, les vitraux magnifiques. Près de l'entrée et à l'intérieur, il y avait un plateau à collecte de forme recherchée, destiné à recevoir les offrandes des adorateurs élégants. Mais juste au-dessus du plateau, un tronc ordinaire était suspendu au mur, surmonté de cette inscription « Pour l'évangélisation ». Et notez ce détail qui, ici, revêtait une importance toute symbolique. Sur la fente par laquelle les offrandes auraient dû être introduites, l'artiste avait dessiné une grosse toile d'araignée. Chers amis, à l'écoute, ce tableau et son détail tout particulier, beaucoup mieux que la représentation d'un édifice religieux transformé en un amas de pierres, décrit la triste réalité d'une église qui tombe en ruine. Et puisqu'aujourd'hui nous nous adressons à une assemblée et à des amis qui pour la plupart ont fait l'expérience de la conversion en Jésus-Christ, je veux vous dire à chacun que s'il n'y a pas d'intérêt pour l'évangélisation dans votre vie spirituelle, celle-ci est une vie spirituelle en ruine, bien qu'elle puisse apparaître belle et enviable aux autres. Et puis, notre troisième point, des versets 22 à 23, nous décrit un message qui reprend. La sagesse annonce un message qui reprend. Ah, pas de paroles agréables seulement, mais un message qui dit toute la vérité, même si elle n'est pas toujours facile à dire ou à entendre. Que de religions qui croient qu'ils vont gagner le monde en prononçant uniquement des paroles qui flattent leurs auditeurs. Cela peut paraître marcher dans un premier temps, mais cela finit toujours par déboucher sur le néant. On raconte l'histoire de ce jeune pasteur qui avait traité en trois dimanches certains attributs de Dieu, l'amour, la grâce et le pardon. Or, à la sortie de l'église, un brave paroissien, relativement âgé, se permet cette remarque au pasteur, frais et moulu de la faculté de théologie. « Vous savez, vous les pasteurs, depuis que vous parlez sans cesse de l'amour de Dieu, les églises se vident. » Interloqué, le jeune prédicateur demande ce qui se cache derrière cette critique. Et le frère de répondre, « L'enfer, monsieur le pasteur. Vous ameniez l'enfer, et maintenant personne ne craint plus Dieu. Tout le monde considère son amour comme obligatoire, mais vous vous trompez. La miséricorde de Dieu est pour ceux qui le craignent et le respectent, lui et ses commandements. Si vous dites que l'enfer n'existe plus, pas plus que le diable, comment voulez-vous qu'on cherche Dieu ? Voilà, monsieur le pasteur, pourquoi les églises se vident. Bien sûr, il ne s'agit pas de prêcher l'enfer pour impressionner les gens, pour leur faire peur inutilement, mais il est nécessaire d'en parler parce que c'est une réalité, que c'est un immense péril qui menace chacun et qu'il faut vraiment prendre ses dispositions pour y échapper. Car le péché pratiqué dans le monde est beaucoup plus grand encore que ce que nous pouvons en penser habituellement dans la réalité. Et justement, ces dispositions sont celles qui sont recommandées par notre verset. Il faut reconnaître qu'on est stupide d'après le verset 22. Ça veut dire qu'on est incapable par nous-mêmes de comprendre les choses importantes et éternelles. On est inconscient de leur importance. Reconnaître aussi qu'on aime cette stupidité. On aime, oui, par nature, cet état débilitant, alors qu'on devrait vouloir changer. Et puis reconnaître que trop souvent on est moqueur de ceux qui font le mal, en raillant et en jugeant de façon coupable et insensée, spécialement le message de la parole de Dieu. Et puis reconnaître qu'on a agi ainsi de manière continue jusqu'à présent, et qu'on s'y est complu si longtemps, dans ce verset 22 encore. Vers la fin du verset 22, nous sommes appelés à reconnaître qu'on est insensé, qu'on est fou, qu'on s'est complètement planté, si j'ose dire, totalement trompé. Et puis reconnaître même qu'on a haï la science. Celle qui seule peut nous rendre sages. L'intelligence qui nous permet de comprendre Dieu et de comprendre vraiment les autres. Bref, ce que la sagesse nous amène à faire, c'est de reconnaître qu'on est complètement coupable. Et complètement non seulement en dehors de la bonne voie, mais même à l'opposé de cette voie. C'est pour cela qu'il y a si peu de gens qui veulent vraiment se tourner vers le Seigneur. Parce que le message, dans un premier temps, n'est pas agréable. Parce qu'il met le doigt sur nos torts. Parce qu'il blesse notre orgueil. Parce qu'il en montre bien d'autres péchés qu'on n'imaginait pas. Parce qu'il demande un changement radical. Parce qu'il nous rend coupables et notre orgueil ne le supporte pas. Parce que notre échec est si total qu'il n'y a qu'une totale soumission à Dieu qui puisse nous tirer de là. Mais c'est cependant nécessaire pour notre salut. Voici la petite anecdote qui a été trouvée dans la Bible d'une vieille dame. La vie chrétienne est semblable au cadran d'une horloge, dont les aiguilles seraient les mains de Dieu qui passent et repassent inlassablement. La petite aiguille, celle de la discipline, la grande, celle de la miséricorde. Lentement et sûrement, l'aiguille de la discipline doit s'étendre sur nous. Dieu parle à chaque coup qui frappe. Mais l'aiguille de la miséricorde passe et repasse inlassablement, répandant une abondante bénédiction à chaque coup de la discipline et de l'épreuve. Les deux aiguilles sont fixées à un pivot sûr, le cœur immuable de notre Dieu d'amour. Amen. Notre quatrième point nous parle des promesses de la sagesse. Dans la fin du verset 23, « Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Quelle merveilleuse promesse que celle de l'effusion du Saint-Esprit, avec toutes ses conséquences et manifestations. Oui, par le Saint-Esprit, guérison et délivrance. Par l'action du Saint-Esprit, exaucement et réponse. Renouvellement et régénération de l'esprit, de l'âme et du corps. Par le Saint-Esprit, purification et sanctification. Par le Saint-Esprit, production du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Et puis, par le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Et les assurances aussi par le Saint-Esprit, les assurances pour la vie éternelle et les assurances que le Seigneur accorde ici-bas. Voilà, lorsque le Seigneur promet de répandre son Esprit, ce qu'il veut accomplir pour nous. Et lorsqu'il est dit encore « Je vous ferai connaître mes paroles » à la fin du verset 23, ça nous parle d'une connaissance approfondie, une connaissance expérimentale de la parole de Dieu. Une connaissance de la pensée de Dieu, de sa volonté. Une connaissance profondément édifiante. Une connaissance faisant que nous sommes bien dirigés et bien conduits. Une connaissance inspirante de vision divine. Une connaissance riche non seulement pour nous, mais pour d'autres. Oui, mes amis, combien une telle connaissance est précieuse, désirable, par la méditation et l'étude approfondie de la parole de Dieu. Notre point suivant nous parle du rejet de la sagesse dont il est question au verset 24-25, puis un peu plus loin au verset 29 et 30. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs formes de rejet qui nous sont indiquées ici. Et nous devons bien prendre garde à ne nous retrouver dans aucune d'elles, en ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu. Ainsi, au verset 24, il est question de la résistance à l'appel de Dieu. Il est aussi question de ce même verset, de ne pas prendre garde à ce que Dieu fait, ne pas prendre garde à sa main étendue pour accomplir des œuvres miraculeuses. Et puis au verset 25, il est question de rejeter les conseils de Dieu, de sa parole, de ne pas les aimer, et puis de ne pas aimer les réprimandes non plus, au verset 30, au verset 25, pardon, de les dédaigner également, c'est-à-dire de les considérer comme peu de choses. Le verset 29 nous parle de haïr la science, c'est-à-dire de ne pas supporter les grandes vérités bibliques, ou même peut-être certaines d'entre elles. Et puis il est question aussi de ne pas choisir, dans le verset 29, la crainte de Dieu, de ne pas prendre position clairement pour le Seigneur, en négligeant, en remettant à plus tard. Et tout cela s'est rejeté. Et autant un point qu'un autre, ils sont aussi graves l'un que l'autre, par leurs conséquences au moins. Et la raison principale, c'est cet orgueil obstiné du cœur humain qui ne veut pas nous faire changer de direction. On raconte que lors d'une nuit très sombre, le capitaine d'un navire aperçut de faibles lumières à une certaine distance. Il dit à son signaleur d'envoyer le message suivant. « Changez votre route de 10 degrés au sud. » Il reçut immédiatement la réponse suivante. « Changez votre route de 10 degrés au nord. » Le capitaine, orgueilleux, devint très fâché parce qu'on avait mis en question ses ordres. Alors, il envoya un second message. « Changez votre route de 10 degrés au sud. C'est le capitaine qui vous parle. » Il reçut la réponse suivante. « Changez votre route de 10 degrés au nord. Je suis Jones, quartier maître de 3e classe. » Le capitaine, orgueilleux, pensa effrayer ce marin désobéissant. Il envoya un troisième message. « Changez votre route de 10 degrés au sud. Je suis un cuirassé. » La dernière réponse arriva. « Changez votre route de 10 degrés au nord. Je suis un phare. » Dieu est le phare du monde. Il est toujours en train d'essayer de convaincre l'humanité perdue de se tourner vers le Seigneur, parce que lui ne varie pas et que c'est à nous de changer et de nous tourner vers lui pour marcher dans ses voies. Et puis ceci nous amène à notre sixième grand point, c'est-à-dire les conséquences du rejet de la sagesse dont il est parlé du verset 26 au verset 28, ainsi que du verset 31 au verset 32. La première, c'est que Dieu n'a plus aucune compassion du rebelle quand il est dans le malheur. Ce qu'on voit dans le verset 26. Dieu va le laisser et l'abandonner dans la terreur, et ceci sans aucun complexe de culpabilité. Dieu laissera le malheur en faire son jouet, son pantin, pour le désarticuler et le détruire, est-il dit dans le verset 27. Quelle terrible image que celle du tourbillon qui est employé là. Dieu ne répondra plus à ses prières, d'après le verset 28. Dieu ne se laissera plus trouver par eux, parce qu'ils n'ont pas cherché au temps où il fallait, parce qu'ils n'ont pas cherché au temps favorable. Verset 28, là aussi. Et ils assumeront toutes les conséquences des mauvais conseils, de leur résistance insensée et de leur fausse sécurité dans les versets 31 et 32. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassaisiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, la sécurité des insensés les perd. Un homme se tient près de la cheminée, il a chaud. « Voici un feu qui chauffe admirablement, dit-il. Un moment après, il s'éloigne jusqu'à l'autre bout de la chambre. Il a froid. Ce feu ne chauffe plus, dit-il. Mais oui, le feu est aussi brillant que tout à l'heure. Seulement vous, vous en êtes éloigné. De même, bien des gens s'écrient « Dieu m'a abandonné ». Non, ce sont eux qui se sont éloignés de Dieu. Voilà tout. Dieu merci, notre texte se conclut par les conséquences de l'acceptation de la sagesse. Je ne résiste pas au plaisir de relire ce verset 33, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ah, mes amis, ceci met l'insistance sur le fait d'écouter et de recevoir. Et voyez le repos qui est alors le nôtre. Voyez l'assurance qui est la nôtre. Voyez la vie véritable qui est nôtre. Voyez la tranquillité qui est nôtre, la paix qui est nôtre, la protection qui est nôtre. Oui, l'absolue bénédiction qui est la nôtre, le nôtre. Amen. Alléluia. Ah, oui, mes amis, mes frères et sœurs, tout ceci nous parle de l'importance de chercher de tout cœur cette sagesse du Seigneur qui est si importante et si salutaire. Ceci nous rappelle la nécessité d'en faire notre priorité, de la mettre au premier rang de nos préoccupations et de nos nécessités. Si nous la cherchons comme l'argent, si nous la poursuivons comme un trésor, alors nous trouverons la crainte de Dieu, nous dit ce chapitre des Proverbes. Lisons, méditons assidûment la parole de Dieu, la Bible, l'Écriture sainte, jour après jour, en faisant monter au Seigneur en même temps de ferventes prières. Demandez, et l'on vous donnera, dit le Seigneur. Cherchez, et vous trouverez, ajoute-t-il. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et c'est ainsi que Dieu vous bénira et vous sauvera, que son nom soit glorifié. Te remercions, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour ces jours, ces semaines qui sont devant nous, suivant ton désir et suivant ta volonté. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu veux aider chacun et chacune d'entre nous à prendre et à garder les bonnes positions et les bonnes dispositions dans sa vie, dans son âme, dans les choix qui sont à faire, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci de pouvoir vraiment compter sur toi, pour vraiment s'attacher à toi. Et merci pour l'action fidèle de ton esprit et les promesses de ta parole que tu réalises pour tous ceux qui se confient en ton nom. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs. Eh bien, il me reste à vous rappeler le culte ce dimanche à l'église. Donc, le premier à 8h30. Le deuxième à 10h45. Merci de vous inscrire, si ce n'est pas fait encore, soit en ligne, soit par téléphone. Alors, nous avons un changement qui va s'opérer dans notre horaire de semaine, parce que suite à la décision gouvernementale de ravancer le couvre-feu à 18h, à partir du samedi 2 janvier, un vote a été fait à la réunion de prière du 30 décembre, pour une réunion qui se tiendra donc tous les mercredis à 16h à l'église, ceci pour la durée de ce fameux couvre-feu, donc à partir du mercredi 6 janvier. Donc au lieu de 18h, ce sera 16h. Voilà, c'est le meilleur ou le moins mauvais qu'on puisse faire dans les circonstances. Et voilà, que le Seigneur en tout cas vous bénisse dans cette année nouvelle, qu'il vous fortifie par sa grâce et par son amour, et qu'il puisse accomplir en votre faveur tous ses plans de vie. Amen.